Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Daniel Bougnou, qui a dirigé l'édition des œuvres romanesques complètes, quatrième volume, d'Aragon, dans la bibliothèque de la Pléiade. Je me suis arrangé pour que le lecteur soit pris au livre, pour qu'il croie à mes mensonges. Ça fait une dizaine d'années maintenant, Daniel Bougnou, que les œuvres romanesques complètes d'Aragon vous occupent, puisque le premier tome de la Pléiade a été publié en 1997.
Oui, qui était son anniversaire. Et donc, puisqu'Aragon est né en 1897. Donc, son centenaire était marqué par le premier tome des œuvres romanesques. Et nous en sommes au quatrième, et le cinquième, qui sera le dernier, sera pour, je pense, 2010.
L'œuvre romanesque, au regard de l'œuvre poétique, est-ce qu'elle, de votre point de vue, est-ce qu'elle tient le choc ?
Alors, on peut préférer Aragon romancier, Aragon poète. Lui-même ne séparait pas les genres. Il disait volontiers que tout lui était également parole. Et c'est vrai qu'il y a du roman dans la poésie, très narratif parfois, comme le roman inachevé. C'est un titre de poème ô combien superbe. Et puis, il y a de la poésie dans les romans. Et donc, il ne faut pas avoir une vision trop disciplinaire de cet auteur, je crois. Moi, peut-être, je préfère le romancier. Il y a une liberté du romancier, un plaisir animal à jouer avec les mots qu'on trouve bien sûr chez le poète. Mais il y a aussi des personnages, il y a aussi la conduite d'intrigues complexes. Et puis ce fameux réalisme qui est devenu en 64 le mentir vrai. Mais c'est un très riche champ d'expérience.
Un champ d'invention aussi, puisque ça a été son ambition affichée dès le début, la réinvention du roman.
Oui, à l'époque surréaliste où il y avait un interdit jeté contre le roman, Aragon a voulu braver Breton et ses camarades par la plus folle des mesures, dit-il, puisqu'il a produit ce monstre kilométrique appelé provisoirement la Défense de l'infini. Et donc, on en a bien sûr publié les restes, les beaux restes,
dans le premier volume.
Dans le tome 1.
Le roman comme machine à fixer des secrets.
À fixer des secrets, à étendre la connaissance. Mais fixer des secrets, c'est très fort, parce que fixer, ça veut pas dire révéler. Ça veut dire le faire sentir, ce secret. Et donc, on a une pulsion d'interprétation touchant ces romans ainsi cadenassés, verrouillés sur leurs secrets. Bon, c'est peut-être aussi une stratégie de séduction. Quoi de plus séduisant que d'avoir des secrets ? Mais Aragon avait beaucoup de secrets. Et le Parti communiste et la famille avant la grande famille communiste, la propre famille d'Aragon, était riche en secrets.
C'est pour ça qu'il pensait que les romans devaient s'écrire clandestinement.
Alors, sans doute que la clandestinité est inséparable de l'écriture romanesque. La contrebande, notion très, très chère à Aragon, notamment dans les années de guerre, où la contrebande est vitale pour faire passer le message contre la censure. Mais il y a toujours une censure frappant l'activité d'Aragon. Et dans son propre parti, certains de ses romans n'étaient pas du tout bien notés. Aurélien, en 1945, n'enthousiasme personne au Parti communiste. Ça ne reflète en rien les combats d'où il sortait, la résistance, la libération. Donc Aragon a, en tant que romancier, conscience d'être en marge, et parfois même en porte-à-faux ou à contre-courant. Et néanmoins, bien sûr, il a l'énorme courant du réalisme qu'il instrumente, qu'il argumente, qu'il défend à sa façon, et qu'il défend surtout contre l'interprétation très réductionniste du réalisme en URSS.
La destruction de la défense de l'infini, ça peut être interprété comme un effet collatéral de cette clandestinité dont nous venons de parler.
Je pense qu'Aragon lui-même était devant un projet inaboutissable, contradictoire, monstrueux. Bon, alors, y a-t-il eu vraiment destruction ? Bon, il n'a rien publié de son vivant, de cet énorme ensemble. Il prétend avoir brûlé les deux tiers, ça, c'est invérifiable. Mais que ça l'ait occupé 3-4 ans, oui, ça s'est attesté par les manuscrits, par les confidences. Et je pense qu'un homme comme Aragon avait besoin d'une activité d'auto-analyse en marge de son activité publique, de poète national, de directeur de journaux, ce qu'il a été formidablement, d'organisateur du parti, des luttes de la vie culturelle, des bibliothèques avec sa femme Elsa. Le roman était l'œil du cyclone, là où rien ne bouge et où tout se refait silencieusement.
Mmh. Combien de volumes va comprendre cette édition des œuvres romanesques complètes ?
On arrive à les faire tenir, tous ces romans, en 5 volumes. Le dernier sera le plus gros puisqu'il y aura 3 titres. Il y aura La mise à mort, Blanche ou l'oubli et Théâtre roman, pour lequel j'ai demandé à Philippe Forest, qui a ouvert avec moi le tome 1, qui a fait le premier ouvrage à Nicey et qui fera le dernier Théâtre roman. Donc nous aurons fini en 5 volumes et nous aurons couvert un petit siècle d'écriture, puisque Nicey paraît en 21 et Théâtre roman en 74. Mais vraiment, quelle histoire ! Quelles histoires !
Comment vous voyez l'évolution de ce siècle d'écriture à travers ces romans ?
Eh bien, certains qui le découvrent aujourd'hui me disent « mais c'est d'une folle modernité ». Et c'est vrai que Aragon a anticipé à peu près tout. Il a touché à peu près à tout. Bon, y compris le nouveau roman ou ce qui a pu paraître novateur dans les années 50-60. Et on sent très bien à la fois l'impatience d'Aragon devant cette école, bon, qu'il salue néanmoins, il fait l'éloge de Michel Butor, par exemple. Mais lui-même se lance dans des recherches formelles très déconcertantes, là aussi pour ses camarades, à partir au moins de La Semaine Sainte, qui n'est pas un roman tout à fait dans la ligne des précédents. Mais y regarder de près, il y a toujours des plages de fantaisie, d'innovation ou de déviance dans les romans classiques, entre guillemets, d'Aragon. Aurélien est un roman assez déviant par certains côtés. Le personnage n'est pas positif du tout. Le personnage qui donne son titre au roman, Aurélien. Et il y a des passages de rêverie, de retour aux années surréalistes qui sont très étranges de la part d'un homme comme Aragon, et les circonstances d'écriture de la guerre qui sont celles d'Aurélien. Et donc Aragon s'est servi du roman pour, oui, comme machine de connaissance, et comme dit-il, plus tard, dans la postface aux communistes, il y a un très très beau texte qui est dans le tome 4, là, où Aragon revient sur le monde réel. Le texte s'appelle « La fin du monde réel ». Il envisage le roman comme étant à la poésie ce que la physique est aux mathématiques. Alors les mathématiques, c'est cristallin, comme la poésie, qui est un montage formel et cristallin de mots. Et la physique, ben, c'est le monde réel. Et les romans sont, à partir de la poésie, l'exploration physique du monde. Et donc c'est très charnel, les romans d'Aragon. Il parle même, dans la préface des Voyageurs de l'Impérial, des mondes charnels. Il s'agit de créer des mondes charnels, celui d'un enfant, celui d'une femme, celui d'un vieillard, éventuellement libidineux, comme dans le conte d'Irène. Mais il crée des personnages assez inoubliables. Et moi, je suis frappé par cette faculté de création de personnages. Combien Aragon aura engendré de personnages, notamment de très belles, très beaux portraits de femmes.
Voici donc Daniel Bougnou, l'avant-dernier volume des œuvres romanesques complètes d'Aragon dans la Pléiade, le tome 4 que vous avez dirigé, comme les précédents. Et ce volume comprend notamment la seconde moitié des communistes, car les parties 1, 2 et 3 figurent dans le volume précédent, le tome 3. Et le volume est complété par la Semaine Sainte, c'est-à-dire deux vastes machines de la très grande composition.
Oui, je me suis servi de cette phrase qu'il emploie dans Henri Matisse roman, qui est une phrase de Matisse. Je vais peut-être aborder à la grande composition. À la grande composition, Aragon, avec la Semaine Sainte, il s'y affronte. Mais déjà les communistes. Alors, peut-être le grand inédit de cette publication, c'est quand même les communistes, que personne n'a vraiment lu. Et dans le tome 4, c'est la seconde partie des communistes, c'est-à-dire la peinture de la débâcle militaire de 40. Et là, Aragon fait quelque chose d'inouï. Je voudrais même le dire à France Culture, où vous avez consacré récemment une semaine à Le bel avenir de la guerre, je crois. Et il aurait fallu verser au dossier des écrivains de guerre les communistes d'Aragon, et puis la Semaine Sainte, qui sont des romans militaires, mais des romans sur la douleur d'être un soldat, sur l'effroyable gâchis de la guerre et en même temps l'impensable chaos.
La défaite.
Et la défaite morale autant que physique, c'est-à-dire l'écrasement des hommes, la honte qui naît de cette étrange défaite, comme a dit Marc Bloch, mais qu'Aragon peint avec une virtuosité et une force de compassion. Une étrange pitié. Il était à Dunkerque, il était au bord des routes là, à ramasser les blessés, puisqu'il était médecin auxiliaire. Toujours, même en 40, il a été recruté comme médecin pour avoir fait 3 ans d'études de médecine dans les années 20. Et donc, il a vécu le front de très près. On le sait par ses poèmes qui sont chantés par Ferré, qu'on lit dans le roman inachevé. On le sait moins dans ses romans, et Les communistes est un très grand roman de la guerre.
Est-ce que ce roman était vraiment illisible au moment de sa publication ?
Il y a eu un très gros malentendu d'Aragon avec le Parti communiste touchant le contenu de ce livre. Le Parti y a entendu une espèce d'apologie et de défense et illustration d'une politique. Aragon, sans doute, a voulu faire ça, mais il a voulu faire tout autre chose. Je crois qu'il a voulu refaire la défense de l'infini. C'est-à-dire mettre en scène 300 personnages dans un chaos impensable qui est la débâcle et qui est d'abord, il faut le dire, ça commence avec le pacte urno-soviétique. Ça commence, à vrai dire, ça commence vraiment avec, à la frontière des Pyrénées, le reflux de républicains espagnols en 38. C'est ça le début des communistes. C'est la guerre de 40 comme le contre-coup de la guerre d'Espagne. Et Aragon a été mêlé intimement à ces successives guerres et il montre dans les communistes l'enchaînement des guerres. Et le destin de guerre, et ce qui arrive aux hommes dans la guerre. Et il va là où on ne va pas d'habitude, c'est-à-dire il va vers la souffrance, jusqu'à la folie, jusqu'à un excès de cruauté. C'est poignant, les communistes. Et Dunkerque, où il s'est trouvé pris, c'est quelque chose de dantesque. Enfin, il ne peut l'illustrer dans les œuvres romanesques croisées, puisqu'il y a des illustrations qui accompagnent l'édition des œuvres croisées. Il ne peut l'illustrer que par un tableau de Bruegel, l'enfer de la mort, pour justement... dire par une très ancienne peinture ce qu'était la photographie de Dunkerque.
Donc un roman tout de même d'abord un peu difficile, ne serait-ce que parce
difficile.
Que son titre est un peu provocateur.
Très dissuasif.
Un peu dissuasif, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis ensuite parce que sa lecture n'est certes pas réservée aux militants, mais en tout cas à des lecteurs qui ont déjà un certain niveau d'information.
Alors, l'information est apportée par le roman, parce qu'Aragon ne vous épargne rien des noms de régiments, de leurs étapes, de la toponymie, des lieux, par où ça passe. et puis des tractations parlementaires, médiatiques, diplomatiques, derrière cet énorme événement de la défaite. Donc tous les théâtres d'opérations sont couverts, autant qu'il le peut, il peut, à une échelle incroyable. Mais évidemment, le lecteur est perdu. Mais il est perdu, je dirais, comme le soldat. Et donc il faut arriver à cet état de vertige, de chaos, pour faire l'expérience de la chose.
Oui, vous-même, dans votre introduction, Daniel Bougnou, vous parlez de bordel. Hein. Vous dites que c'est un bordel avec ses digressions, ses parenthèses, la rivalité des voix narratives, le bariolage des personnages.
C'est un mot d'Aragon, bordel, pour nommer La Défense de l'Infini, dont il disait que ce roman impossible devait s'achever dans un gigantesque bordel. Et donc, au fond, l'achèvement, c'est ça. C'est Dunkerque où c'est la débâcle de 40.
Alors, comment le chaos est-il affronté par le romancier et surtout contenu ?
Contenu, oui, aux deux sens du verbe contenir, c'est-à-dire tenu à distance et néanmoins intériorisé et expérimenté. Il y a des personnages extrêmement touchants. L'abbé Blomet, par exemple, qui est un curé presque dadaïste, qui éprouve une jubilation intense à dynamiter les ponts, à faire valser les maisons. On sent Aragon, d'ailleurs, j'ai souvent pensé, et je l'ai écrit dans Pléiade, qu'il crée au bord de la destruction. Et au fond, la guerre le stimule. Et dans Aurélien, déjà, il y a de la part des anciens combattants un regret de la guerre. Et on sent qu'Aragon aime la guerre. Il l'aime pour des raisons très personnelles, très intimes. Aragon, ce n'est pas un bourgeois, c'est un aristocrate. Et il est communiste par haine de la bourgeoisie, mais par une haine aristocratique de la bourgeoisie.
Parce qu'il lui plaît à l'armée. Un communiste persévérant. Hein, il est quand même resté 55 ans au Parti communiste.
Il est mort avec sa poche dans son veston. Il était fidèle jusqu'au bout. Il n'a pas commis le beau geste de rompre l'éclat, comme ça, la superbe du dissident. Non, Aragon est resté dans le parti pour des raisons d'ailleurs intéressantes à comprendre. Mais l'écriture de la guerre, pour lui, est une jubilation en tant qu'un défi, parce que, au fond, la hiérarchie militaire lui plaît et la fraternité des hommes dans la guerre lui plaît. Il y a là, pour lui, une espèce de chevalerie. Et je pense que ça explique aussi la Semaine Sainte, parce qu'il y a cette fraternité de la défaite. Rien ne soude mieux les hommes, peut-être, que la souffrance partagée et l'humiliation partagée. Et c'est aussi, bien sûr, le cas des communistes. Mmh. Donc tout ça, ce sont des miroirs pour la défaite du communisme. La défaite à venir, mais déjà sensible, sans doute, pour un homme comme Aragon.
Oui, parce que dans ce roman, il y a la guerre, mais il y a surtout les communistes et il y a ce que vous appelez l'honneur et l'horreur
d'être communiste. L'horreur et l'honneur d'être communiste, oui. Et les deux sont absolument indissociables, notamment après le pacte germano-soviétique, où les communistes sont accusés d'hitlérisme, quasiment, alors qu'ils ont été les seuls à ne pas ratifier les accords de Munich, par exemple. Donc ils sont pris complètement à contre-pied. Ils sont frappés d'infamie par ceux-là même qui ont collaboré et qui vont collaborer avec Hitler. Et qui sont, bien sûr, qui se dédouanent sur le dos des communistes en les désignant comme boucs émissaires de la guerre et de la défaite.
Il y a comme ça un certain nombre de pages plutôt navrantes.
Bien sûr, mais l'histoire est constamment réécrite et Aragon écrit justement historiquement, et notamment dans la Semaine Sainte aussi, c'est ce combat d'un roman historique pour écrire autrement l'histoire ou d'un point de vue qui n'est pas celui habituel d'écrire l'histoire. Mmh. Notamment, il écrit dans le micro-tissu de l'histoire, il écrit au niveau du fantassin, au niveau de l'homme perdu par l'histoire, de l'homme qui ne peut pas s'orienter dans l'histoire, qui cherche le sens, qui cherche l'ordre, qui cherche à quoi tout ça va aboutir. Et donc, ce sont des romans écrits en pleine immanence. Aragon dit présent accentué. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'avenir. On est dans la mêlée. Il écrit dans la mêlée. Ça, c'est très impressionnant pour moi. Et c'est très moderne.
Le sujet profond du roman, au fond, c'est comment s'orienter dans l'histoire.
Dans l'histoire. Comment s'orienter dans l'histoire. C'est le sujet de la Semaine Sainte, bien sûr.
Donc, à la fois un roman à thèse. Par exemple, lorsqu'il soutient que le communisme est l'avenir de la France.
Oui, ça c'est l'espoir, disons, qui était celui de la libération. Espoir très vite démenti par la confiscation gaulliste, par la séparation des gaullistes et des communistes, et puis par le retour au jeu parlementaire. Et donc la révolution n'a pas accompagné la libération. Donc ça c'est clair, à partir de 1946. D'où un poème comme Le Nouveau Crève-Cœur, ce recueil qui paraît en 1947, pour dire l'amertume de la libération. Des années noires qui ont suivi la guerre. La guerre était noire, mais il y avait cet espoir né de la résistance commune. Et cet espoir est retombé en 1945, en effet. Mais Aragon a essuyé tellement de désespoir dans sa vie. Pour moi, c'est ça peut-être la marque principale de... Au fond, l'attachement que je porte à cet auteur, c'est à quel point il a souffert, à quel point il a connu le désenchantement, le désespoir, la soustraction de l'avenir, la brisure du rêve. Alors, il a connu dans l'amour. Tous ces poèmes d'amour malheureux sont alimentés par une attente démesurée d'infini qui ne peut pas être comblée. Mais il l'a connu aussi sur le plan politique, bien sûr. Et c'est intimement lié, l'amour personnel et l'amour politique. L'espérance politique.
D'où l'autre aspect de ce roman, c'est son côté cathartique pour réparer le trauma infligé aux communistes par ce pacte germano-soviétique dont vous parliez et par quelques autres péripéties.
Oui, cathartique, c'est-à-dire qu'il va montrer le courage des hommes. Quelles que soient les errances, voire les violences et la cruauté de la grande histoire, eh bien, il y a la micro-histoire, il y a celle des hommes auxquels on ne peut pas jeter la pierre parce qu'ils sont là à se battre et à souffrir parfois très solitairement. Ce qui est le cas d'Aragon dans l'armée française en 1940. Il est désigné comme un rouge, comme un pestiféré, comme un fauteur de guerre. Et il se bat, il tient son rang, il tient son poste, il tient ses hommes. Et il est même soutenu par ses hommes dans certaines circonstances qu'il raconte. Et donc, il y a cette histoire racontée à la base, racontée depuis le bas, depuis la histoire d'en bas. Ça, c'est infiniment touchant.
Un roman historique et revendiqué comme tel, ce qui ne sera pas le cas de la Semaine Sainte.
Oui, puisqu'il mettra cette phrase tellement paradoxale et bizarre et de dénégation pure. Ceci n'est pas un roman historique de la Semaine Sainte, dira-t-il. Parce qu'il ne veut pas qu'on le confonde avec, mettons, Alexandre Dumas ou ce qu'on peut mettre sous l'étiquette d'un genre, justement. Aragon n'aime pas les genres. Alors, roman historique, ça l'enferme dans un genre. Or, la Semaine Sainte, ça déborde vraiment tous les genres.
Mais les communistes ?
Oui, ce sont des romans qui sont affrontés à l'infini. Ce ne sont pas des romans dont on peut dire ceci ou cela, ce serait les réduire. Non, il faut accepter chez Aragon le torrent, la coulée, le frayage inouï, comme cela, des foules et de l'océan, comme ça, de l'histoire, qui est un chaos grondant, qui n'est pas un petit fleuve tranquille, qui n'est pas... Et Aragon brasse cette matière-là. Et il va au roman pour ça, comme on va nager dans une mer démontée. Et moi, je l'ai un peu connu à Toulon, il avait ce goût de la nage. Je revois toujours Aragon partant à la nage, 1 kilomètre en mer. En 74, il avait 77 ans. Il partait faire des nages de plusieurs kilomètres. Mais ça, c'est l'homme Aragon, je pense, dans son courage physique et dans son extraordinaire ambition intellectuelle et morale.
L'autre gros morceau de ce quatrième volume des œuvres romanesques complètes d'Aragon dans la Pléiade, Daniel Bounou, c'est donc La Semaine Sainte, un roman qui se passe en 1815, mais qui n'est pas un roman historique, parce que, dites-vous, le romancier braque sa lunette sur des zones que l'histoire délaisse.
Oui, c'est ce tissu interstitiel, ces hommes perdus. Et donc ces hommes dont on ne fera pas l'histoire, parce qu'ils sont lâchés par l'histoire. Parce que, bon, il faut dire, donc, c'est l'histoire de la maison du roi, telle que à l'aube, le matin des rameaux 1815, Napoléon remontant de l'île d'Elbe, après bien des hésitations, Louis XVIII prend le chemin des Flandres. Il emmène avec lui toute une maison assez hétéroclite, de fidèles, de suiveurs, de craintifs. Et parmi ces hommes, il y a par hasard le peintre Théodore Géricault, jeune mousquetaire du roi, qui par hasard porte l'uniforme des mousquetaires gris et qui, par une absurde fidélité à son uniforme, va suivre la maison du roi. Et donc le roman est partiellement vu à travers les yeux du peintre Géricault. Bon, c'est pas seulement un roman sur Géricault, mais Géricault en est le héros principal ou le personnage principal. Et donc il y a aussi beaucoup de notations assez fortes, admirables d'Aragon sur la manière picturale de voir les choses. Et ça commence dans des bitumes très, très, très sombres de la chambrée des mousquetaires qui s'habillent comme ça le matin ou qui jouent aux cartes. Bon, on est dans des espaces comme ça de tableaux. Parfois, l'écriture rivalise avec la peinture. Mais la peinture
avec
est un
interprétant notamment.
Il décrit des tableaux, voilà. Et on voit Géricault avec son modèle, par exemple, dans un chapitre surprenant, où son modèle l'apostrophe et lui parle de sa peinture. Peinture à laquelle Géricault ne croit plus au moment de la Semaine Sainte. Et dans ce moment de doute d'un créateur, d'un grand créateur, eh bien, il y aura cette échappée, cette chevauchée boueuse, sans honneur, où il va se perdre avec ces hommes qui peu à peu vont se disloquer. Alors au début, il caracole, c'est beau, ça marche bien, ça marche droit. Il part sur la route de Lille et très vite en chemin, bon, les carrosses versent dans les fossés, les chevaux perdent leurs cavaliers, les troupes se débandent, enfin, on ne sait plus où on va, qui fait quoi, qui est où. Et donc, c'est le roman de la défaite des hommes qu'on balade, qu'on promène, qu'on égare, et au fond qu'on ne mène nulle part. Et voilà, c'est un roman de désespoir et de doute. Et néanmoins, en 58, Aragon veut en faire un roman qui dit à la fois la désorientation et qui, néanmoins, sur cette route, trace un avenir. Parce que Géricault, et c'est vrai que pour un homme comme Géricault, ou pour les hommes de cette époque, 1815, où va l'histoire? Ceux qui viennent de l'Ancien Régime, qui ont enduré la Révolution, le Consulat, l'Empire, puis la Restauration, puis maintenant le retour de l'Empire. Qui faut-il croire? De quoi sera fait demain? Est-ce qu'il y aura la République? Est-ce qu'il y aura le retour des rois? Est-ce qu'il y aura l'Empire? Et Géricault est devant ses voies également ouvertes et bouchées. Et donc, c'est le roman du plus grand doute.
Un état de doute généralisé, avec de la division et de la trahison.
Beaucoup de trahison. Beaucoup de trahison, beaucoup de bruit de veste qu'on retourne dans les coulisses de l'histoire ou du palais des Tuileries. Et bien sûr, il y a aussi des situations cocasses, comiques. On rit souvent dans la Semaine Sainte parce qu'il y a des aspects anecdotiques et parfois grotesques de ces hommes qui d'ailleurs ont plusieurs noms parce qu'ils ont traversé plusieurs époques. Alors au début, on est même désorienté par leurs noms parce qu'on les appelle tantôt par leur petit nom, tantôt par leur nom d'Ancien Régime, tantôt par leur nom d'Empire. Et donc, tout ça crée pour le lecteur, là encore, beaucoup de confusion. Parce qu'on ne sait pas, par exemple, Géricault est appelé Théodore, donc on ne sait pas que c'est Géricault. Alfred de Vigny, c'est le petit Alfred. Lamartine aussi, bon. Adolphe, c'est... Alphonse, pardon. Le maréchal Berthier, bon, qui a tous les noms de l'Empire. C'est assez désorientant et bizarre. Les individualités ont des facettes reflétées par leur patronyme. Et on a beaucoup de mal à savoir qui fait quoi au début. Puis peu à peu, le puzzle se met en place et à la fin, on est au fait de l'événement. Mais l'événement se passe sur tant de scènes, sur tant de plans différents que là encore, il y a un défi pour la construction et un risque évident d'égarement pour le lecteur. Mais quelle puissance! Et là, pour le coup, Aragon a rencontré son public.
Est-ce que ce roman a la phrase cabrée et chevelée, comme les cavalcades des chevaux de Géricault, peut être dit réaliste? Est-ce qu'il porte le drapeau du réalisme?
Bien sûr, Aragon ne s'en est jamais départi de cette ambition. Mais réalisme, ça veut dire tant de choses. Bon, c'est une étiquette fourre-tout. Ça veut dire, je crois, essentiellement qu'on s'affronte à la démesure, à l'infini. C'est-à-dire, bon, le réel, c'est l'impossible à cadrer, à symboliser, à articuler, à dire. Et donc, le réalisme, c'est le plus grand programme possible pour un écrivain. Et donc, Aragon, persévérant dans le réalisme, persévère dans la direction d'une certaine démesure, d'un défi écrasant qui culmine dans des titres comme La Semaine Sainte ou, derrière celui-ci, Le Fou d'Elsa, qui sera un immense roman sur la chute de Grenade, un immense poème narratif, poème romanesque, sur la chute de Grenade, qui là aussi était l'histoire d'une défaite militaire et l'histoire d'une agonie d'une civilisation en 1492-94. Et là aussi, un miroir, bien sûr, pour les espoirs trahis et brisés du rêve communiste. Ce sont des romans sombres, et des romans où quelque chose de l'auteur et de son parti sombre, s'écrase, enfin, entre en agonie. Mais au fond, c'est aussi les périodes peut-être les plus heureuses de l'écrivain. L'écrivain n'est pas là pour chanter une cause triomphante, mais il est là pour accompagner le doute, le désespoir, et cette dimension cathartique, en effet, c'est-à-dire de pitié, parfois de piété, quand il s'agit de nommer les morts, de les ensevelir. Le roman sert à ça aussi, de tombeau. C'est un immense tombeau, la Semaine Sainte. C'est Nathalie Pieguet qui s'est affrontée à l'immense tâche d'annoter ce roman. Et de même, c'est Bernard Loyot. Je veux le dire ici parce qu'on croirait que c'est moi qui ai commenté ces deux immenses textes. Non, il a... Enfin, heureusement, j'étais très, très heureux d'associer à ce travail Bernard Loyot, qui a achevé le travail des communistes, et Nathalie Pieguet, qui s'est chargée de la Semaine Sainte. Immense entreprise. Mais on sait que la Semaine Sainte est un des plus grands romans du XXe siècle français. Et il entre en Pléiade, et heureusement, il était temps. Et quel énorme morceau de littérature.
Vous voyez, vous le dites dans votre introduction, un élargissement là, de la notion de réalisme qui va céder la place à ce que Aragon lui-même a appelé le mentir vrai.
Oui, titre qu'il a forgé pour une nouvelle de 64, alors que nous avons placé, que j'ai placé en dernier titre de cette édition du tome 4, parce que ce titre, le mentir vrai, fait charnière avec ce qui vient derrière, ce qui viendra après. C'était la troisième période d'Aragon, une période beaucoup plus, je dirais, où les problèmes de la langue, du métalangage, l'interrogation de la façon d'écrire, de raconter l'histoire, montent au premier plan. Et Le mentir vrai, c'est une très curieuse nouvelle où le vieillard raconte l'enfant qu'il a été. Il y a un texte en partie double. On a un paragraphe, l'histoire de l'enfant qui se raconte. Et puis, le paragraphe suivant, c'est le vieillard qui reprend à l'enfant ses mots en disant « Mais non, c'était pas ça, tu te rappelles pas ou tu mens, c'est pas comme ça que ça se passait. » Et donc, on a l'impression d'un discours qui se corrige sans cesse lui-même. Mais on n'a aucune assurance que le discours du vieux, disons, soit plus vrai que le discours de l'enfant fabulateur. Et donc, il y a deux petits romans qui luttent l'un contre l'autre pour établir une vérité de toute façon introuvable. Mais c'est assez plaisant, ce dialogue narratif. Et au fond, cette ironie portée sur la vérité en dernière analyse qu'on ne saura pas.
Et ça, en fin d'analyse, ça nous apporte des révélations sur la poétique d'Aragon.
Sur son enfance,
d'une part. Et sa conception, sa conception du roman.
Et sur sa conception du roman comme fabulation partagée. Et ancrée dans un milieu familial, lui-même fabulateur, puisque l'enfant Aragon l'a se mis en scène dans ses origines truquées. Chacun sait aujourd'hui que... Bon, c'était un enfant sans père, ou dont le père se faisait passer pour son parrain, dont la mère présente se faisait passer pour sa sœur. Et toute la famille d'Aragon était une famille à tiroirs, à placards, à mensonges. Et cela est mis en scène précisément dans Le mentir vrai, qui est un roman familial au sens fort du terme, et un roman de mensonges, parce qu'il n'y a pas de famille sans mensonges. Mais dans la famille d'Aragon, le mensonge était quand même particulièrement... Particulièrement représenté.
Mais là, il y a quand même un certain penchant pour la vérité, puisque ce qu'Aragon nous ouvre, c'est purement et simplement sa fabrique, la fabrique du texte.
Oui, il feint de nous ouvrir le... Il dit « j'abats mon jeu », déshabiller la mécanique, ouvrir le ventre de la poupée ». Mais en même temps, ce sont des ruses d'écrivain. Je crois que lui-même est trop écrivain pour penser qu'on puisse dire le dernier mot de la création. Aragon n'analyse pas ses textes, il les réécrit, c'est-à-dire qu'il en remet une couche. Et donc il produit comme ça des mille feuilles de textes qui, chacun, ont leur cohérence, leur vérité propre, mais il faut tout lire pour peut-être atteindre une approximation. Mais Aragon ne se corrige pas, il ajoute. Et au fond, il déteste l'autocritique, il le dit quelque part. « Je ne me donnerai pas les gants de cette boxe devant le miroir. » Il déteste l'autocritique, il déteste peut-être même faire le point sur ce qu'il est intimement. Il préfère la fuite en avant dans le roman, ou dans la parole heureuse, la parole fertile, la parole qui peut nous toucher encore aujourd'hui si fort.
Il y a dans ce texte-là une analyse de l'impact d'un secret de famille.
Oui.
Et il nous montre comment le mensonge se transmet. On peut penser peut-être à une autre famille qui a été celle d'Aragon, la famille communiste.
Bien sûr. Et lui-même a souligné les aspects familiaux de la famille communiste. Il y a cette strophe incroyable dans le poème « Les yeux et la mémoire » de 54. « Salut à toi, parti, ma famille nouvelle. Salut à toi, parti, mon père désormais. J'entre dans ta demeure où la lumière est belle comme un matin de mai. » Alors ça, c'est vraiment une surenchère. Surtout qu'il a pris la claque un an avant du portrait de Staline à propos des funérailles du grand-père des peuples, des morts de Staline en 53. Et donc Aragon a été aussi en butte à l'ouvriérisme, à l'anti-intellectualisme dans son parti. Et il en remet une couche dans la fidélité, dans la ferveur familialiste de ce parti. On peut dire aussi que du côté de son couple, il a cherché peut-être par la célébration du couple et de l'amour une espèce de ferveur unitaire qui redoublait la ferveur communiste. Mais tout ça, bien sûr, vole en éclats sur le versant romanesque. Les romans nous montrent à quel point les familles sont truquées, à quel point les couples sont impossibles, à quel point les amours sont malheureuses. Et donc là encore, il faut tout lire pour lire bien. Parce qu'Aragon ne dit pas les mêmes choses selon qu'il écrit dans un journal de son parti, dans un roman, dans un poème. Bon, ce sont des scènes d'écriture chaque fois différentes, des lieux d'écriture, des stratégies d'énonciation chaque fois différentes. Donc c'est quelqu'un de très compliqué, Aragon. Et c'est pour moi, c'est pour ça que c'est très intéressant.
Avec toujours la volonté de brouiller le partage du vrai et du faux.
C'est peut-être pas une volonté, c'est peut-être la condition même de notre parole. C'est que quand on est attentif au réel, alors la vérité s'éloigne. Non pas qu'elle soit impossible, bien sûr. Bon, en science, il y a une vérité scientifique. Dans le roman, dit Aragon, eh bien, le roman vient là où la science échoue. Le roman vient pour parler quand même là où il n'y a pas de vérité possible. Et la Semaine Sainte, c'est un peu ça. Ceci n'est pas un roman historique, parce qu'au fond, l'histoire est une science et que le roman n'est pas une science. Mais c'est une métascience. C'est-à-dire, c'est le métalangage de la science. C'est le langage des hommes qui vont là où la science ne va pas, pour dire la relation tâtonnante des hommes entre eux, ou de la femme avec l'homme, ou de la génération, de la transmission, tout ce qui est chuchoté dans les sentiments, dans les confidences, dans les témoignages. C'est aussi des romans de témoignages. Mais le témoignage n'est pas forcément vrai. Il peut être urgent et émouvant de témoigner quand même si la vérité fait défaut.
Donc le roman a le dernier mot, finalement, parce qu'avec lui, on peut mentir.
Le roman a le dernier mot. Ça, j'aimerais bien que ce soit le dernier mot de notre entretien, Alain, parce que, oui, le roman a le dernier mot. Quelle phrase formidable. Parce que le roman, c'est le lieu, peut-être, des mots les plus graves au point où ils sont suspendus au-dessus d'un abîme, au-dessus d'un vertige. Voilà, les grands romans touchent au vertige des mots. Et pour ces mots, il n'y a pas d'adéquation finale, il n'y a pas de repos. Les mots ne sont pas en repos. Ils sont relancés par d'autres et on n'aura jamais fini d'interroger ces récits, ces histoires qui sont énigmatiques. Quelque part, Aragon dit, en grec, la parole, c'est le mot « ainos », le radical d'énigme. Toute parole est énigme. Et dans le roman, et dans la poésie aussi, bien sûr, le mot retrouve sa charge d'énigme, c'est-à-dire de questions sans réponse. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se taire, au contraire, n'est-ce pas? Ce sont des invitations à relancer la parole, mais une parole peut-être inachevable, comme le roman inachevé d'Aragon.
Daniel Bougnou a dirigé l'édition des œuvres romanesques complètes d'Aragon, tome 4, dans la bibliothèque de la Pléiade. Du jour au lendemain, Angélique Thibault, Fabien Capel, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir.